VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 5 juin 2023. Après les troubles, les Sénégalais reprennent leurs activités, choqués et inquiets.
Je crois qu'on a des problèmes structurels, on a des problèmes sur le long terme et on a aujourd'hui un problème précis sur le court terme qu'il faut résoudre, mais les solutions, on les connaît.
Pierre Sané, ancien secrétaire général d'Amnesty International, évoquera les voies d'un retour à la normalité dans la partie magazine. Dans le nord du Nigeria, des assaillants armés tuent 30 personnes dans 6 villages. Au Soudan, les factions militaires rivales continuent de s'affronter à Khartoum. Réouverture mardi de l'ambassade iranienne en Arabie Saoudite après 7 années de rupture. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, les activités reprennent petit à petit après les violentes manifestations notées en fin de semaine dernière suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à une peine de 2 ans de prison ferme. Le bilan est de 16 morts et des centaines de blessés, dont 357 répertoriés par la Croix-Rouge sénégalaise. Le point sur la situation de ce lundi à Dakar avec notre correspondant Sédina Bagay.
D'habitude très bouillant et bruyant les lundis matins, la capitale sénégalaise est presque amorphe. Même si les activités reprennent petit à petit, l'absence de bouchons sur certains grands axes routiers comme la Védène et l'ancienne piste montre que beaucoup de Sénégalais préfèrent encore rester chez eux par mesure de sécurité. Devant les rares agences bancaires ouvertes, des dizaines de personnes font la queue jusqu'à la porte, souvent, pour récupérer de l'argent liquide afin de pallier les désagréments notés sur les transactions d'argent via mobile. Des désagréments dus à la coupure d'Internet par l'État, une mesure dont se plaignent beaucoup de Sénégalais. Pour eux, cela impacte négativement des personnes qui n'ont rien à voir avec les violences notées. Côté sécurité, un calme précaire règne dans la capitale et le dispositif des forces de l'ordre, même s'il paraît allégé à certains endroits, reste omniprésent sur les axes stratégiques. Sédina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
En Guinée, au moins 7 jeunes écoliers qui allaient passer ce lundi les examens d'entrée au collège se sont noyés après que leur pirogue a chaviré sur le fleuve Niger, près de la ville de Kouroussa. Les opérations pour retrouver des corps se poursuivent. Le bilan pourrait s'alourdir, selon une source locale. Dans le nord-ouest du Nigeria, des assaillants armés ont tué au moins 30 personnes dans 6 villages. Cette effusion de sang est la dernière flambée de violence intercommunautaire que le nouveau président a déclaré vouloir combattre en priorité. Claire Morin-Gibou.
Arrivés à bord d'une vingtaine de motos, des hommes armés ont mené des raids dans le district de Tangaza, dans l'état de Sokoto, tuant 30 personnes dans 6 villages, selon le porte-parole de la police, Sokoto Ahmad Roufai. Selon la police, cette expédition ciblée a eu lieu après le passage à tabac de plusieurs éleveurs dans un village voisin par un groupe d'autodéfense. Selon des témoignages, 36 personnes ont été tuées lors de ces attaques suite à une tentative de racket par un groupe armé. La région est en proie à des conflits meurtriers entre éleveurs et agriculteurs sur des droits de pâturage et d'accès à l'eau. Ce conflit a dégénéré avec des bandits menant des raids meurtriers dans les villages pour voler du bétail, kidnapper pour obtenir une rançon et brûler les maisons. Le tout nouveau président Ahmed Bola Tinubu a prêté serment lundi dernier. Il a promis, lors de son discours d'investiture, de faire de la lutte contre l'insécurité sa priorité absolue.
Au Soudan, des tirs d'artillerie ont frappé les quartiers ouest de la capitale ce lundi matin. Selon des habitants de Khartoum, les factions militaires rivales se sont affrontées toute la nuit. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ce lundi, les forces paramilitaires de soutien rapide du général Daglo ont publié une vidéo censée montrer qu'elles ont pris le contrôle du quartier général de l'armée à Koutoum, un centre commercial et l'une des plus grandes villes du Soudan. Hier, des habitants ont fait état de combats intenses à Khartoum, Omdurman, sa ville jumelle et Bari. Le quartier où nous vivons, dans le centre d'Omdurman, est pillé tous les jours sans que personne n'intervienne pour l'empêcher. Les affrontements et les tirs d'artillerie se poursuivent autour de nous, a déclaré Mohamed Saleh, un habitant. Dans le district de Khartoum-Est, les forces de soutien rapide contrôlent totalement la situation et se livrent à des pillages, a affirmé Walid Adam, un autre habitant. À El Obeid, les habitants ont signalé d'importants déploiements des forces de sécurité et la fermeture de certaines routes. Les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide se sont intensifiés après l'expiration samedi d'un accord de cessez-le-feu négocié par l'Arabie Saoudite et les États-Unis.
La 9e édition du sommet annuel de l'Africa CEO Forum s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan autour du thème « Réussi malgré les crises ». De 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains. La rencontre a été lancée en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et des acteurs du secteur privé. Le directeur général de la Société financière internationale, Makhtar Diop, a souligné le rôle prépondérant du secteur privé dans l'économie du continent africain et ses défis.
Nous avons augmenté nos engagements à hauteur de 36,5 milliards de dollars, record dans les engagements de la SFI. 11 milliards de ces ressources ont été exclusivement investis sur le continent africain. Nous avons également fait cela pour les effets du changement climatique. Près de la moitié de nos investissements en fonds propres, 47% plus exactement, sont liés au changement climatique. Nous sommes conscients de l'impact dévastateur des crises actuelles sur le financement du commerce international. Nous prévoyons, sur les deux années à venir, d'augmenter de 50% la taille de notre portefeuille en Afrique. C'est aussi face aux défis que laissent les opportunités qui changeront la donne pour le monde que nous construisons. Ainsi, ces multiples crises ont permis de mettre en lumière les secteurs porteurs qui sont les vecteurs de la croissance future. Je citerai en premier lieu les secteurs de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie.
Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale. Le gouvernement du Malawi a annoncé aujourd'hui avoir reçu une demande d'aide du Rwanda pour retrouver 55 fugitifs recherchés pour leur rôle dans le génocide des Tutsis en 1994 et qui se cacheraient dans ce pays d'Afrique australe. Ces personnes sont des chefs de guerre connus, a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure du Malawi, Ken Zikale Ngoma, lors d'une conférence de presse à Lilongwe. Le génocide a fait plus de 800 000 morts. Selon l'ONU, essentiellement des Tutsis exterminés entre avril et juillet 1994.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien vice-président américain Mike Pence a déposé aujourd'hui sa candidature à la Maison-Blanche selon des documents publiés par la Commission électorale fédérale et il va donc défier son ancien patron Donald Trump dans les primaires républicaines. Le conservateur va officialiser mercredi, le jour de ses 64 ans, son entrée en lice avec une vidéo, puis un meeting à Des Moines dans l'Iowa et va terminer la journée sur un plateau de la chaîne CNN. Il rejoint une arène de candidats républicains avec une dizaine de prétendants qui, pour l'heure, sont tous largement distancés dans les sondages par l'ancien président. L'ambassade iranienne en Arabie Saoudite rouvre ses portes demain mardi, scellant le rapprochement entre les deux puissances rivales du Moyen-Orient après plus de 7 années de rupture. Eric Manirakiza nous en dit plus.
La réouverture de l'ambassade iranienne aura lieu mardi à 15h GMT. En présence du nouvel ambassadeur iranien, a affirmé un diplomate basé à Riyad sous couvert d'anonymat. Selon Iran Daily, le quotidien anglophone du gouvernement de Téhéran, le poste sera occupé par le diplomate iranien de haut rang Alireza Enayati. La réconciliation devrait être formellement scellée à l'occasion d'une prochaine visite du président iranien Ebrahim Raisi à Riyad. Téhéran et Riyad avaient rompu leurs relations en 2016. Les deux puissances régionales ont conclu en mars un accord surprise par l'entremise de la Chine, prévoyant la réouverture de leurs ambassades respectives et la mise en œuvre d'accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a plaidé aujourd'hui en faveur d'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite à la veille d'un déplacement dans le Royaume saoudien. Les États-Unis ont un vrai intérêt de sécurité nationale à promouvoir une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, a-t-il déclaré dans un discours devant le lobby pro-Israël à IPAC, ici même à Washington. M. Blinken doit se rendre demain mardi à Jeddah, le port saoudien où la famille royale saoudienne prend ses quartiers d'été, ainsi qu'à Riyad mercredi et jeudi, où il participera notamment à une réunion de la coalition des pays luttant contre le groupe État islamique. L'Ukraine a affirmé aujourd'hui gagner du terrain aux abords de la ville ravagée de Bakhmout dans l'Est, mais a relativisé l'ampleur des actions offensives menées ailleurs sur le front. La Russie affirma au contraire repousser des attaques d'envergure. Ces opérations ont lieu au moment où les autorités ukrainiennes disent préparer depuis des mois une vaste contre-offensive destinée à obliger les troupes russes à se retirer des zones qu'elles occupent. Elles ont cependant prévenu qu'elles ne révéleraient rien de leur plan ni de leur calendrier, du calendrier du moins de cette attaque. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Jibou.
En Côte d'Ivoire, l'Africa CEO Forum 2023 a ouvert ce lundi à Abidjan. Près de 1800 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques d'Afrique et du monde se réunissent pour deux jours. Le premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a appelé à l'innovation et à l'intégration des jeunes leaders dans l'économie mondiale. Les levées de fonds des start-up africaines ont augmenté de 42% en mai 2023 pour atteindre 621,8 millions de dollars. L'agence Ecofin précise que l'Afrique de l'Est concentre près des deux tiers des financements récoltés avec 414,7 millions de dollars. Deux start-up kenyanes, Caracol en tête, la plateforme de financement M-Copa a levé 255 millions de dollars et le fournisseur de solutions scolaires hors réseau, Sun King, a récolté 130 millions de dollars. Les États-Unis et l'Inde sont convenus ce lundi d'une feuille de route de coopération militaro-industrielle au moment où New Delhi cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'armement russe et dans un contexte de tension avec Pékin.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football avec le dénouement des interclubs de la CAF. D'abord, le sac de l'USM Alger en Coupe de la Confédération.
Oui, après 86 ans d'attente, le club de la Médina gagne enfin un trophée majeur sur le continent, battu à domicile 1-0 par les Tanzaniens de Young Africans. Lors de la finale retour, les Algériens vainqueurs 2-1 à l'aller bénéficient de la règle du but marqué à l'extérieur. Un sacre mérité selon leur entraîneur Abdelhak Benchika.
C'est mérité par rapport les 12 matchs. On était au top. Mais nous sommes heureux. Tout le peuple algérien est heureux. Alhamdulillah. Quelle est l'histoire du club? Club, un grand club. Un grandissime club. Sur le plan continental, des hauts et des bas. On a fait une finale. Nous avons fait une demi-finale. Mais ça reste fragile. Je pense que nous méritons le titre.
Abdelhak Benchika, entraîneur de l'USM Alger.
En Ligue des Champions, on jouait la finale aller.
Al Ahly du Caire remporte à domicile le premier match, succès 2-1 sur le tenant du titre, le Wydad Casablanca. Une petite option que devront défendre les Égyptiens à Casa dans une semaine devant les Marocains qui pourraient aussi profiter du but marqué à l'extérieur.
Le Nigeria, dernier représentant africain, éliminé du mondial des moins de 20 ans.
Tout à fait, les Flying Eagles se sont inclinés en quart de finale devant la Corée du Sud 1-0. But encaissé en début de prolongation sur corner. Comme en 2017 et 2019, il n'y aura donc pas d'équipe africaine dans le dernier carré du mondial junior.
Basketball ici dans la finale en NBA, le Heat remet les pendules à l'heure.
Miami a égalisé en remportant à Denver 111-108 le deuxième match de la finale NBA. Les détails avec Bagassi Koura.
Fort d'une adresse retrouvée à presque 50% derrière l'arc et d'une défense acharnée, Miami, qui n'avait plus gagné dans le Colorado depuis 2016, inflige à Denver sa première défaite à domicile dans ses playoffs. Celle-là, on est allé la chercher avec les tripes, s'est exclamé Bam Adebayo. L'entraîneur de Denver, Michael Malone, fulminait lui après ses joueurs. Parlons d'effort, ce n'est pas la pré-saison, ce n'est pas la saison régulière, c'est la finale de la NBA. S'il y a pourtant un joueur à épargner côté Nuggets, c'est Nikola Jokic. Au sommet de son art, surpuissant aussi à l'intérieur, il a répondu seul aux salves d'attaque du Heat, inscrivant 41 points et récupérant 11 rebonds. Miami a même tremblé jusqu'au bout quand Jamal Murray s'est révolté dans le Money Time, en enchaînant 10 de ses 18 points, mais son shoot au buzzer a échoué à arracher la prolongation.
Page des sports, VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Les Sénégalais ont commencé à reprendre leurs activités ce lundi après les violences, mais la crainte d'une nouvelle flambée persiste en raison de l'incertitude politique. Bien que les rues de la capitale se remplissent progressivement, de nombreuses agences bancaires sont toujours fermées. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar Pierre Sané, ancien secrétaire général d'Amnesty International.
Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a péril à l'avenir. Il y a des situations dans les pays voisins en Afrique qui sont bien pires que celles que nous vivons. Au moins, ils sont préservés du péril. Nous ne sommes pas dirigés par un régime militaire et nous ne sommes pas en période de guerre civile. Il y a des soubresauts comme dans toute démocratie.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que les acquis démocratiques sont liquidés au Sénégal?
Non. Vous savez, les acquis démocratiques sont plus menacés par l'incapacité des autorités à sortir la population de la pauvreté. 50% de la population vit dans la pauvreté. 50% de la population vit dans l'ignorance, alors que nous avons 60 ans d'indépendance. Donc, ces échecs du point de vue économique et social, c'est ça qui constitue une menace à la démocratie. Parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas inclus. Tous ces jeunes-là qui sont sans travail ne sont pas inclus. Nous avons un système qui exclut. Donc, il est évident que lorsqu'il y a des erreurs dans les jeux politiques et que ces jeunes perçoivent qu'une injustice est en train d'être commise, en plus de l'injustice sociale, qu'une injustice est en train d'être commise, ils réagissent spontanément. Il n'y a pas d'appel à l'insurrection, ils réagissent spontanément. Et passer sur leur passage. Donc, je crois que pour qu'il y ait vraiment une atteinte grave à la démocratie, il faut que ce soit organisé par des forces qui veulent mettre fin à la démocratie sénégalaise. Mais là, c'est une erreur monumentale de l'État qui a sous-estimé le degré de colère qui existe dans le pays par rapport à une gestion nébuleuse du pouvoir, une gestion nébuleuse du pouvoir et une injustice de plus contre un homme politique populaire après avoir commis la même forfaiture contre Khalifa Sall et Karim Watt. Et c'est cette répétition-là par des gens arrogants qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça c'est un rappel qui est envoyé aux puissants pour leur dire non, ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce pays-là.
Quelles sont les solutions que vous voyez?
On attend du président Macky Sall qu'il respecte scrupuleusement la Constitution et qu'il ne prenne pas une direction que tout le monde refuse, c'est-à-dire un troisième mandat. Ça, personne n'est d'accord là-dessus. Menace persiste, il va y avoir des soubresauts, surtout si cette menace de troisième mandat est accompagnée par des actions visant à empêcher d'autres candidats de concourir aux élections de 2024.
Pierre Sané, ancien secrétaire général d'Amnesty International.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, la deuxième édition des Journées économiques internationales des communes s'est achevée le week-end dernier à Yaoundé. L'événement a permis aux mairies du pays de rechercher les sources de financement pour garantir la sécurité alimentaire et booster le développement de leur municipalité. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jelentap.
L'amélioration des conditions de vie des populations reste un enjeu capital dans plusieurs communes du Cameroun. Mais certaines font face à plus de difficultés, à l'instar de la commune de Fotokol dans la région de l'extrême nord. Ramat Moussa, maire de Fotokol.
L'arrondissement de Fotokol a été saccagé par Boko Haram. Ma présence ici, c'est de chercher l'investisseur pour reconstruire cet arrondissement. L'année passée, nous avons présenté beaucoup de projets. Jusqu'à là, nous attendons les retombées. Rien n'a été fait sous prétexte que Fotokol est sous la zone rouge.
Après 7 années de crise entre les séparatistes anglophones et l'armée, la commune de Koumba, dans la région du sud-ouest, recherche aussi des financements pour une aide des cendres. Henri Tabot, grand conseiller de la commune de Koumba.
Nos produits venant de Koumba, notamment le cacao, du bois, nous avons besoin que les investisseurs nous aident à transformer sur place à Koumba. Les jeunes à Koumba sont beaucoup plus rebelles parce qu'ils n'ont rien à faire. Si on transformait le bois à Koumba sur place, beaucoup trouveront l'emploi. S'il y a une société qui investit autour de 2-3 milliards, ça pourra faire l'affaire.
Des milliards de francs CFA, c'est ce dont a également besoin la commune de Biura pour se doter d'une mini centrale hydroélectrique d'une puissance de 1 à 5 mégawatts. Le projet a été présenté au gouvernement depuis 2 ans, mais n'est pas encore entré dans sa phase opérationnelle. Emmanuel Ndoumouvondo, responsable de ce projet.
Biwa, par exemple, produit de l'huile de palme. Aujourd'hui, c'est transformé de façon entière. Mais là, on pourrait acheter des petits moulins électriques et, en fait, augmenter donc l'extractabilité et la production de l'huile de palme. C'est-à-dire installer des petites unités de transformation le long des villages, des moulins à manioc et tout ce que vous pouvez voir là.
Le système des Nations Unies est l'un des partenaires des communes dans le processus de décentralisation au Cameroun. Mireille Kamitou Olunga Kana, du Bureau de coordination des systèmes des Nations Unies au Cameroun.
On travaille avec les communes, les aider à intégrer certaines thématiques dans leurs programmes communaux de développement, et que ça va être sur l'accès aux services sociaux de base, ça peut être dans le domaine rural, sur l'agriculture ou sur l'entrepreneuriat.
Lors des journées économiques des communes, la question de la sécurité alimentaire a été au centre des débats. Joseph Dion Gouté, Premier ministre du Cameroun.
La sécurité alimentaire est un problème complexe et global qui ne peut être adressé que de façon multidimensionnelle, tant à l'échelle internationale, régionale, nationale, locale, qu'à celle des individus. Il est évident que l'ambition affichée du gouvernement est de faire des communes des territoires d'opportunités multiformes pour le tissu économique au bénéfice des populations.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, les locaux du journal d'investigation L'Événement ont été mis sous scellé par les autorités en raison d'un contentieux fiscal. La Société des éditeurs de la presse privée dénonce une instrumentalisation du fisc pour faire taire des voix discordantes par rapport à la politique des autorités de la transition. Yacouba Ouédraogo, agent à Ouagadougou, Inoussa Ouédraogo, président de la Société des éditeurs de la presse privée.
J'avoue que nous n'avons pas été surpris à cette fermeture-là, parce que vous savez, depuis plusieurs mois, tous ceux qui suivent l'évolution des débats sur les médias au Burkina savent clairement qu'il y avait des volontés de museler la presse libre et indépendante, ainsi qu'une volonté d'instaurer une sorte de pensée unique, de faire que ceux qui font entendre d'autres sons de cloche autres que ceux des autorités. Nous apprenons d'ailleurs qu'il y a d'autres médias qui sont dans le collimateur des impôts. Mais pour nous, cette décision est simplement regrettable. Nous comprenons certes la volonté des services des impôts de faire leur travail de collecte. Et l'événement n'est pas au-dessus de la loi. Et il doit payer les impôts. Mais il est difficile de ne pas faire le lien entre le travail de ce journal d'investigation et sa fermeture par les impôts. Nous sommes loin de ceux qui encouragent l'institution, mais nous pensons que la mise sous scellé du journal pour des raisons de fiscalité est non seulement une mauvaise solution à un problème réel, mais c'est aussi une entrave à la liberté de presse.
Quand vous dites instrumentalisation du fisc, d'aucuns penseront que derrière le fisc, il y a le pouvoir en place, alors que c'est juste que l'organe a été mis sous scellé parce qu'il n'a pas payé ses impôts.
Oui, mais combien d'entreprises au niveau du Burkina ne sont pas à jour vis-à-vis des impôts? Ça veut dire qu'il faut fermer tous les médias au Burkina, parce que, ou en tout cas la plupart, parce que nombreux sont ceux qui sont dans des difficultés. Si ouvert, le journal ne peut pas être à jour de ses impôts, ce n'est pas en fermant qu'il sera à jour. Du reste, depuis plusieurs jours, l'événement est en discussion avec le service des impôts pour éponger progressivement sa dette. Ce n'est pas que le journal refuse de payer.
Justement, dans une situation pareille, que va faire ou que fait la Société des éditeurs de presse privée?
dans les heures qui suivent, nous allons mettre à disposition de tous ceux qui le désirent des coordonnées bancaires, des numéros pour recevoir des dons financiers pour soutenir ce journal-là. Il ne faut pas que le journal rate ses prochaines parutions. Il faut, dans une sorte de sursaut républicain, protéger et garantir la pérennité des rares leviers qui nous restent pour sauver l'état de droit et garantir la démocratie.
Est-ce que vous sentez que c'est de plus en plus difficile d'exercer la liberté d'expression au Burkina Faso?
Absolument. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de s'exprimer librement au Burkina. Ce n'est même pas que les médias, les politiques ont été suspendus et ostracisés. Certaines organisations de la société civile n'ont pas le droit de s'exprimer. Les journalistes ont été pris à partie. On a appelé même au meurtre de certains journalistes. Évidemment, les autorités elles-mêmes n'ont pas ouvertement appelé au meurtre des journalistes, mais très souvent, ils ont gardé le silence.
Inoussa Ouédraogo, président de la Société des éditeurs de la presse privée du Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les États-Unis et la Chine ont passé le week-end à Singapour à se pointer du doigt. Les principaux chefs militaires des deux pays se sont mutuellement accusés d'attiser les tensions dans le détroit de Taïwan lors de discours distincts à l'occasion d'un sommet qui était censé mettre l'accent sur l'unité. Arash Arabasadi de la VOA fait le point sur cette rhétorique qui fait suite à des manœuvres de plus en plus tendues dans la région. Le récit avec Lionel Gaïma.
Tout d'abord, un avion de chasse chinois a effectué une manœuvre au-dessus de la mer de Chine méridionale à la fin du mois dernier. Il s'est trop rapproché d'un avion de reconnaissance américain, une manœuvre que les États-Unis avaient qualifiée d'inutilement agressif. Quelques jours plus tard, dans le détroit de Taïwan, qui sépare Taïwan de l'Asie continentale, un destroyer chinois a effectué une manœuvre qui s'est trop rapprochée d'un navire de guerre américain. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, avait qualifié cette manœuvre d'irresponsable et la marine américaine l'a qualifiée de dangereuse. Le décor était donc planté pour une guerre de mots entre les États-Unis et la Chine lors du dialogue Shangri-La de cette année à Singapour. Cette réunion, qui rassemble chaque année des hauts gradés des armées du monde, est une plateforme de mise en réseau et d'encouragement à la désescalade. Au lieu de cela, les chefs militaires de deux pays ont eu des échanges verbaux sur les récents événements survenus en mer de Chine méridionale. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, rapporté par Associated Press.
People's Republic of China continues to conduct an alarming number of risky intercepts of U.S.
La République populaire de Chine continue de procéder à un nombre alarmant d'interceptions risquées d'aéronefs américains et alliés volant légèrement dans l'espace aérien international. Nous soutiendrons nos alliés et nos partenaires qui se défendent contre la coercition et l'intimidation. Pour être clair, nous ne cherchons pas le conflit ou la confrontation.
Li Shangfu, ministre chinois de la Défense, rapporté par Associated Press.
Pour éviter réellement ces incidents, le meilleur moyen est que les pays, en particulier les navires de guerre et les avions de chasse, ne prennent pas de mesures de fermeture autour de la mer et de l'espace aérien des autres pays. En d'autres termes, il faut s'occuper de ses propres affaires et prendre soin de son propre peuple.
Le ministre chinois a d'ailleurs refusé des demandes de rencontre de son homologue américain lors de ce sommet. Il a essentiellement dit aux États-Unis de plier bagages et de rentrer chez eux. Pourtant, au début de l'année, c'est la Chine qui a envoyé un ballon espion à travers les États-Unis et le Canada pour recueillir, entre autres, des informations sur des sites militaires américains. Les législateurs américains estiment que la Chine est allée trop loin. Mike Turner, membre républicain du Congrès, s'est exprimé dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
On a l'impression d'une certaine permissivité. Je pense que l'administration Biden doit prendre les devants et dire clairement que la Chine s'est identifiée comme un adversaire et que nous allons la traiter comme telle.
Depuis des années, Pékin s'oppose au soutien des États-Unis à Taïwan, s'offusquant publiquement que des législateurs américains accueillent des dirigeants de l'île, comme l'a fait récemment le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy en Californie.
Le département d'État américain considère Taïwan comme un partenaire important dans la région. La Chine considère Taïwan comme une province renégée.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Je vous souhaite une excellente soirée.